Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Merci de nous rejoindre et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Un nouvel invité aujourd'hui pour nous accompagner jusqu'à midi. Il signe un roman, c'est d'ailleurs son deuxième roman. Il a pour titre « Nous les Ultras » et il est disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Son auteur est aujourd'hui devant nos micros. Bonjour Robert Hennel.
Yannick Petit, bonjour. Et je dis bonjour à tous vos auditeurs.
Merci Robert Hennel. Alors nous les Ultras, c'est votre dernier écrit. Je vous présente rapidement. Je vous demanderai vraisemblablement d'en ajouter un petit peu plus sur votre biographie, parcours professionnel assez remarquable, même remarquable. Alors vous avez mené une carrière dédiée à la communication et aux médias et la quatrième de couverture de votre roman précise que vous vous consacrez désormais à l'écriture. Entre Vézelay et Paris, je dois dire que vous êtes retraité. Vous avez acquis il y a plus de 40 ans une maison à Vézelay où vous séjournez très régulièrement, voire une grande partie de l'année avec votre épouse.
J'ai acquis il y a 40 ans une maison aux environs de Vézelay parce que j'avais cherché à l'époque une maison qui me convienne dans Vézelay, bien sûr. Et je n'avais rien trouvé, donc j'ai fini par acheter un presbytère à quelques kilomètres de Vézelay. Et il y a exactement 13 ans, par le plus grand des hasards, j'ai trouvé une maison enfin à Vézelay. Donc j'ai enfin réussi à répondre à mon objectif de bien des années auparavant.
Alors vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions Gallinot qui a pour titre « Patron et premier exportateur de mon entreprise ». C'était il y a 10 ans, en 2009.
Exact.
Et puis ensuite, il y a un autre ouvrage qui s'intitule « Je communique ».
Oui, ce sont des ouvrages qui sont destinés aux dirigeants d'entreprises, disons essentiellement des PME, puisque la matière se focalise sur ce public-là, et destinée à faciliter le management des entreprises de taille moyenne ou des petites entreprises.
Et puis dans le domaine de la fiction, vous avez reçu le premier prix de la nouvelle policière de la ville d'Avallon pour Point Final,
oui,
qui a paru chez Nicta Éditeur. Et puis vous aviez écrit un premier roman intitulé Esprit de famille. Et puis la quatrième de couverture nous dit que vous finalisez actuellement un troisième roman.
Exact.
Alors on va s'arrêter aujourd'hui au deuxième.
Oui.
Mais avant, Robert Hennel, quelques mots un peu sur vos activités professionnelles, votre parcours professionnel, pour nous en dire un petit peu plus que ce que j'ai pu préalablement annoncer ici au micro.
Écoutez, j'ai eu la chance de naître à une époque où les possibilités étaient grandes et ne nécessitaient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir fait des études pointues pour aborder, pour se développer dans un domaine ou dans une filière professionnelle déterminée. Et cela m'a arrangé parce que je n'ai toujours pas eu de sentiment d'avoir ce qu'on appelle une vocation. Et donc je me suis lancé, j'ai eu la possibilité de me lancer après avoir vécu un certain nombre d'années au Moyen-Orient, au service de la France. J'ai eu la possibilité de me lancer dans un domaine qui était balbutiant presque à l'époque et qui était encore artisanal et fantastiquement intéressant, qui était, on disait à cette époque-là, la publicité, ce qui est devenu la communication. Vous savez que la sémantique change toujours pour exprimer les mêmes choses. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Et donc, voilà en deux mots, si vous voulez, les points essentiels de ma carrière, puisque j'ai travaillé dans de grandes agences internationales de communication et j'ai fondé au début des années 80, ma propre société. J'ai travaillé dans cette structure jusqu'à ma retraite.
Merci Robert Hennel pour ces éléments complémentaires d'information. Alors venons-en maintenant à votre roman, Nous les Ultras, avec un point d'exclamation. N'oublions pas ce point d'exclamation. C'est donc disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Et je crois en fait, Robert, que ce roman surprend. D'abord, pourquoi un roman ? Alors que vous m'avez confié que finalement, un très grand nombre, voire l'essentiel des aventures de votre héros narrateur, ressemble étrangement aux vôtres.
Je vais vous répondre, je vais vous dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'édition, comme dans bien d'autres domaines, les gens aiment disposer de cases, de visibilité, et qu'on est obligé de définir en définitive ce qu'on a produit pour les faire rentrer, pour faire rentrer notre ouvrage dans quelque chose qui est tout à fait admis et qui est attendu par les lecteurs sans surprise. C'est pour ça que mon éditeur m'a dit « mettez roman, point à la ligne ». Et je comprends bien le sens de votre question parce que ça pourrait, à la limite, il y a d'autres éditeurs qui m'ont dit « mais c'est un essai », d'autres qui m'ont dit, comme je viens de l'évoquer, que c'était un roman. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas défini de manière standard et qui touche, si vous voulez, bien des aspects de notre société et de notre vécu actuel.
Alors, il faut revenir sur une tentative de définition de ce terme d'ultra. Le point de départ, vous l'expliquez dans le roman, c'est que le terme d'ultra est apparu dans les médias au moment de la guerre d'Algérie. Peut-être une petite leçon d'histoire ne serait-elle pas superflue sur cette notion d'ultra ?
Je vais vous dire exactement, puisque c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience et que j'ai capté ce terme d'ultra.
Vous étiez un très jeune garçon.
Je vais y venir, j'étais effectivement un très jeune garçon. Voilà comment ça s'est passé, c'est que en 56, je crois que c'était en février 56, Guy Mollet, qui était le président, ce qu'on appelait sous la 4ème République, le président du Conseil du gouvernement français, faisait un voyage en Algérie pour se rendre compte de la situation, pour remonter le moral, pour essayer de vendre la solution à laquelle il avait pensé, etc. Bien. Et ce voyage s'est très mal déroulé pour lui, puisqu'il y a eu des manifestations des pieds noirs qui ont été massives et qui l'ont d'autant plus touché et j'allais dire même traumatisé que la plupart de ces pieds noirs qui manifestaient étaient ou étaient encore des anciens ou des adhérents actuels enfin en 56 de la SFIO parce que les pieds noirs à l'époque, contrairement à ce qu'on peut penser dans l'évolution de la guerre, étaient des gens qui votaient systématiquement radical ou SFIO.
C'est-à-dire l'ancêtre du Parti Socialiste,
voilà,
pour faire simple.
Voilà. Guy Mollet était le secrétaire général du Parti Socialiste. Et donc, ces gens-là ont notamment attendu Guy Mollet avec des tomates au centre de la ville d'Alger. Et ça a été une image et une information qu'on a oublié aujourd'hui parce que c'est devenu une anecdote, c'est que le numéro un du gouvernement, le président du Conseil de la France, a dû aller se cacher sous les tomates que la foule, notamment des femmes très jeunes, lui avait lancées. Et c'est cette manifestation qui a donné lieu à deux choses, c'est qu'il y a des journalistes qui ont dit que c'était une manifestation d'ultra de l'Algérie française, d'où le terme « ultra » qui a été systématiquement utilisé petit à petit pour l'ensemble des tenants de l'Algérie française, qui étaient de toutes opinions politiques, je tiens à le souligner. Et puis, d'autre part, ça a changé la politique du gouvernement socialiste qui a complètement modifié donc, sa vision et sa volonté dans ce qui allait devenir, ce qui était la guerre d'Algérie.
Voilà, ce qu'on appelait pudiquement à l'époque les événements d'Algérie. En tout cas, c'est la guerre d'Algérie qui va mettre fin à la 4e République et marquer bien le sûr. Retour du général bien de Gaulle au pouvoir en 58. Une fois de plus, il est l'homme providentiel comme voilà. il le fut en 44.
Alors, en 40 et 44
au moment de la libération. Même si dans votre roman, Robert Hennel, vous écrivez « De Gaulle, pour s'accaparer le pouvoir, avait été l'artisan d'une véritable réécriture de l'histoire de notre pays, et cela dès 1944 ».
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous reprochez au général de Gaulle, vous et votre héros? C'est quoi cette réécriture de l'histoire?
Moi, je lui reproche une seule chose, c'est très simple. Il a exprimé la chose, mais personne n'y a fait très attention, notamment lorsqu'il a dit, je crois que c'était en 58, que entre les communistes et lui, et son parti, il n'y avait rien. Et ça, ça a été quand même une dominante de sa vision politique dès les années 40, qui fait qu'il a permis au Parti communiste de se présenter comme le parti des 100 000 fusillés, alors que d'après les statistiques, on en a 5 000 ou 6 000, ce qui est énorme, bien sûr, mais qui n'a rien à voir, notamment en termes de communication avec le chiffre avancé. Donc c'est cette collusion implicite, puisqu'elle n'a jamais été énoncée clairement, avec le Parti communiste, que je trouve tout à fait nécessaire de souligner et qu'on va retrouver dans la guerre d'Algérie. Parce que mon livre, si vous voulez, c'est pour ça qu'il est un peu, comme vous l'avez souligné, inclassable.
Baroque, je dirais, baroque, au sens d'accord. étymologique du terme, hein, ce qui désignait une perle de forme irrégulière. Je dirais voilà. que c'est un livre baroque.
Voilà, tout à fait. C'est que c'est un, en quelque sorte un cri qui dénonce une chose qui est en quelque sorte la base de la politique depuis 50 ou 60 ans dans notre pays, c'est-à-dire l'imposture.
Et vous parlez même de vastes complots en ce qui concerne
oui,
l'Algérie.
C'est l'imposture, parce que De Gaulle arrive au pouvoir et promet implicitement le « je vous ai compris » est suffisamment vague pour que tout le monde l'interprète à sa façon et selon ce qui l'intéresse. Et il fait croire donc qu'il est tout à fait partisan ou tenant de l'Algérie française, et on sait comment ça a évolué. Or, il est certain que la façon dont ça a évolué, n'importe quel gouvernement, n'importe quel parti aurait pu faire la même chose que De Gaulle. Or, De Gaulle est arrivé au pouvoir grâce à l'armée qui était partisane de l'Algérie française. Et il s'est débarrassé de l'Algérie parce qu'il avait d'autres projets pour la France, il avait d'autres souhaits, une autre vision, et il n'avait qu'une hâte, c'était se débarrasser de l'Algérie. Et je trouve que là, il y a imposture.
Et effectivement, votre personnage, qui a le même prénom que vous, Robert, écrit et dit « Je n'avais pas voulu comprendre ou admettre la manière lamentable avec laquelle s'était terminée la guerre d'Algérie. » On va marquer un premier temps de pause musicale. Robert Hennel, si vous le voulez bien, vous êtes aujourd'hui l'invité de Wagon Livre pour votre roman intitulé « Nous les Ultras » aux éditions Les Trois Colonnes. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
quand je vais.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour sur les banquettes de Wagon Livre avec notre invité ce matin, Robert Hennel, pour son roman intitulé « Nous, les Ultras », disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Robert Hennel, vous avez commencé à nous expliquer ce que « être un ultra » signifiait. Donc il y a l'importance de cette expression utilisée dans les médias au moment de la guerre d'Algérie, qui s'est, je rappelle, terminée en 1962 avec les accords d'Évian. Mais « être ultra », vous dites, enfin, votre héros, et vous finalement indirectement à travers votre héros Robert, vous expliquez qu'il y a à la fois le poids de l'histoire familiale et il y a aussi le poids de l'histoire avec un H majuscule. Deux éléments, et notamment les guerres. Les guerres ont marqué votre famille et vous-même, vous avez été marqué par les guerres indirectement, du moins parce que l'on vous en racontait.
Exact.
C'est les origines de la famille, les origines un peu allemandes, enfin françaises, passées sous domination allemande.
Exact, puisque non, c'est pas exactement, c'est pas tout à fait cela, parce que nous sommes des gens des marches, c'est-à-dire de Lorraine, qui a toujours été un marquisat, donc une marche. Et donc la Lorraine a été rattachée à l'Allemagne de 71 à 1918. Bien. Or, par le plus grand des hasards, il y a eu une histoire d'amour entre une fille de Hobro allemand qui était là comme occupant, en quelque sorte, puisqu'ils étaient censés germaniser en définitive cette province, enfin cette partie de la Lorraine, et puis un jeune Français qui était... très très nationaliste, qui faisait partie de la Lorraine sportive, qui était le mouvement de résistance à l'occupation, à ce qui était vécu comme l'occupation allemande à l'issue de la guerre de 70. Et c'est comme ça que ma famille est née. Donc il y a une partie allemande et il y a une partie française, si vous voulez, dans ma famille, comme il y a des catholiques et des luthériens. Enfin, c'est toujours c'est assez complexe. Et c'est pour ça, si vous voulez, que j'étais un peu épanoui par ce côté double pour une raison fondamentale qui est une grande chance que n'ont pu les enfants, les jeunes aujourd'hui, c'est que je pense que je suis une des dernières générations qui a bénéficié du récit. Puisque j'avais une famille tant du côté allemand que du côté français. Mon père était français, ma mère était française, mais bon, il y avait tous les cousins, etc. etc. Et les deux côtés avaient une formidable passion de raconter les événements, de raconter ce qu'ils avaient vécu, de raconter ce que l'histoire avait fait au pays, à leur pays, à leur filiation, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pu aujourd'hui, et c'est cette transmission qui m'a, si vous voulez, sensibilisé aux guerres, aux drames, et qui m'a certainement marqué de ce fait.
Il y a par exemple le cousin Charles aussi.
Eh bien oui,
qui joue un rôle important pour le narrateur.
Le cousin Charles, bien sûr.
Et pour vous donc, il a vraiment existé ce cousin Charles?
Non.
C'est une invention. Là.
C'est une invention, oui. Mais il y a un autre personnage qui a existé, qui était tout à fait proche du cousin Charles dont on parle dans le roman.
Alors le cousin Charles, donc, il est incorporé de force par l'armée allemande
en 1943.
C'est un malgré nous, effectivement. C'était en plus un fils unique. Il est blessé à la jambe sur le front russe. C'est un survivant.
Il sera même
amputé.
Il n'est pas blessé sur le front russe. Il est blessé déjà en Allemagne, puisqu'il a été blessé en février 1945 devant Königsberg, quand les Russes commencent à investir, à envahir la Prusse orientale. Et c'est là où il a perdu sa jambe, parce que c'était un tel désastre que l'armée allemande ne laissait jamais, n'abandonnait jamais ses blessés. Il a été trimballé pendant 8 jours, et c'est comme ça qu'il a eu un début de gangrène et qu'on a été obligé de l'amputer. Oui.
Alors je lis un passage concernant le cousin Charles. « Depuis le décès de cousin Charles, il n'y a plus personne avec qui je puisse dénigrer ceux qui nous gouvernent, moquer cette intelligentsia qui ne sait que cultiver sa fatuité à longueur de tribunes et d'interviews dans les médias. »
Oui.
Et vous, Robert, que pensez-vous aujourd'hui de notre intelligentsia, des médias ? Vous êtes consterné parfois ?
Je suis...
Affligé ?
Plus que consterné, oui, affligé. Et puis.
Et pourquoi donc ?
Eh bien, écoutez, je crois que ce que je vous ai dit précédemment, ils sont les prêtres de ce monde où la vérité, où le courage, en politique notamment, et dans les engagements, sont complètement absents, c'est-à-dire cette notion d'imposture dont je vous ai parlé.
Oui. Alors, vous dites que les ultras ont besoin d'élan et d'au-delà, et votre héros, Robert, dans le roman « Nous les ultras », dit « Je dois rechercher une façon d'être différente, une échappatoire hors de la médiocrité de l'existence ». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y a des jeunes gens qui peut-être vont s'inscrire dans cette,
ben oui,
dans cette idée ?
Tout à fait. Il faudrait que je vous précise une chose. C'est que ce roman, je l'ai écrit entre 2011 et 2012. Et je pense que, et nous n'avons pas parlé de ça pendant toute l'interview parce que ça nous amènerait trop loin, mais je pense que les gilets jaunes, ce qu'on appelle les gilets jaunes, constituent une manifestation de ce rejet, de la compromission, de l'imposture, de la médiocrité qui est manifeste dans notre civilisation actuelle. Et qui nous amènera peut-être à un désastre profond d'ici quelques décennies.
En tout cas, la France a été particulièrement ébranlée par des scènes de guérilla urbaines qui ont choqué le monde entier tout de même.
Bien
parce
sûr.
Que l'image de la France, si je peux me permettre
écornée.
L'expression, a été, enfin, on a pris un coup.
Bien sûr, tout à fait.
Et vous, Robert, vous auriez aimé rejoindre ces manifestants ou avec un petit peu plus de prudence ?
Non, ce n'est pas une question de prudence. C'est que c'est une première manifestation qui est en quelque sorte manifeste d'une réaction, d'un rejet d'un système. Mais bon, moi j'aurais un rejet également, mais... dans une autre forme, je veux dire, c'est un premier mouvement, on est au début d'un processus, on n'est pas arrivé au bout.
En tout cas, votre héros, dans le roman, lui, il s'insurge contre la politique algérienne de Gaulle. D'ailleurs, il n'hésite pas à aller faire le coup de poing contre des étudiants de gauche, plutôt des trotskistes même. C'est un homme d'action, votre héros. Et d'ailleurs, il a un regret, c'est celui de ne pas avoir pu devenir parachutiste. Dans l'armée, ce qui était
oui.
un peu un camp d'élite, et qui l'est
oui,
encore.
Qui était, comme j'y ai consacré quelques pages, c'était, à l'époque, c'était une mythologie, les parachutistes, puisque c'est eux qui ont rétabli la situation au plan militaire, j'entends, en Algérie, en quelques semestres, et qui ont changé le cours de la guerre et qui fait que sur le terrain, la guerre a été pratiquement gagnée au moment où les Français ont commencé à négocier à Évian et ailleurs.
Et vous, Robert Hennel,
oui.
jeune homme, étudiant, brillant, vous étiez tenté par l'action ? Vous auriez aimé faire une carrière de militaire, par exemple ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que moi, je reste amoureux de ces périodes de l'histoire où il y avait des poètes qui étaient des militaires, il y avait des militaires qui étaient de grands écrivains, ou qui étaient de grands entrepreneurs ensuite, etc. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours eu peur de ne pas avoir de vocation. C'est quelque chose qui, au niveau mythologique, me semble, j'entends les parachutistes, me semble très intéressant et qui était très valorisé à un moment et qui ensuite a été haï quand on a vu l'évolution de la guerre d'Algérie, la propagande qui a permis cette évolution. Mais certainement, c'était quelque chose qui, dans ma jeunesse, m'a attiré, absolument.
Mais vous avez, comme votre héros, fait une préparation militaire ?
J'ai failli faire une préparation militaire. J'ai fait une PME, une préparation militaire, oui. Et puis, je me suis arrêté là, oui.
Alors d'ailleurs, votre personnage, lui, fait sa préparation militaire et il dit « Les officiers ainsi que les sous-officiers qui nous encadraient et étaient censés nous former avaient tous servi en Algérie et nous faisaient des récits circonstanciés de la vraie situation sur le terrain, de cette victoire que l'on allait brader, dont on allait faire cadeau à des assassins, des terroristes, des lâches qui ne représentaient plus qu'eux-mêmes. » Il y a tout de même des coups de plume qui sont des coups de rasoir ou plus que des coups de griffe dans ce texte.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, il y a aussi une véritable nostalgie du héros, de vous aussi, Robert Hennel, lorsque, effectivement, vous écrivez que l'ultra est celui qui se sent un peu inutile, un peu témoin d'un monde en décadence.
D'un monde révolu, peut-être.
D'un monde révolu ?
Oui, peut-être aussi. Non seulement un monde en décadence, mais surtout un monde révolu.
D'ailleurs, c'est page 162. Avec la vieillesse, les ultras qui n'ont pas trouvé la mort se cachent, se font oublier. Ils disparaissent, happés par un temps qui n'est plus le leur.
Exact.
Mais alors, on a l'impression que votre personnage aurait préféré mourir peut-être de mort violente, voire être fusillé comme certains officiers l'ont été, puisqu'ils avaient effectivement outrepassé les ordres, enfin c'était même révolté contre les ordres. Il y a une espèce de volonté de mourir peut-être, non pas en héros, parce que ces hommes ont été tués, légitimement, si parce qu'ils avaient désobéi.
Oui, parce qu'ils ont trahi. Le gouvernement légal a considéré qu'ils avaient trahi la patrie et qu'ils méritaient d'être fusillés à l'image de ce qui s'est passé en 1944-1945. Absolument.
Mais ce qui peut surprendre chez votre héros, c'est cette déception de ne pas être mort dans le feu de l'action ou exécuté à l'aube. C'est le sentiment de l'ultra
c'est les héros,
qui regarde
sinon, sa vie. Si son seul but c'était de mourir avec des pantoufles à côté de la cheminée, ça n'aurait pas été un héros, hein, ni un personnage de roman ou d'histoire.
Lorsque vous écrivez « Devenir vieux pour un ultra est un aboutissement difficilement concevable ».
Oui.
Robert Hennel.
Oui.
Dites-nous-en un peu plus.
Eh bien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a... une citation latine qui m'a toujours frappé, qui était la suivante, c'est que les dieux aiment ceux qui meurent jeunes. Je crois que c'est quelque chose de... Surtout à notre époque où on vit vieux, où il y a de plus en plus de vieux, et que se passe-t-il ? Les vieux sont, les anciens sont démonétisés, sont méprisés la plupart du temps aujourd'hui et vivent de façon... pour le plus grand nombre, de façon très difficile, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau du jeunisme, qui est quand même la couleur dominante de notre société et à travers laquelle on voit toutes les modes, toutes sortes de moralités, de concepts, etc. Donc c'est très dur pour eux, ils sont vraiment rejetés et puis il suffit d'aller dans les EHPAD pour voir exactement ce qui se passe.
D'ailleurs, je vous lis Robert Hennel. Pour cela, il y a des résidences, des maisons et autres lieux concentrationnaires avec une espérance de vie de moins de 3 ans pour ceux qui y entrent. Dernière tendance, on essaie de les envoyer en masse dans les pays du soleil ou vers d'autres destinations. Là, de véritables camps voient le jour. Des lieux idylliques comme le prétend la publicité, le soleil en hiver et une vie bon marché toute l'année. Ils sont déjà comme les morts, il faut les ignorer. On les prépare ainsi jour après jour à ne plus être de ce monde.
Exact.
Il y a beaucoup de réflexions et notamment des dénonciations des prévisionnistes. Ça commence d'ailleurs, le roman commence par la moquerie à l'égard des prévisions météo. Que vous
Bien
trouvez
sûr.
Finalement assez gnangnan, voire bébête.
Bien sûr, Oui.
Pourquoi ce jugement si sévère à l'égard des prévisions météo?
Écoutez, j'ai été surpris, je crois que je le fais dire à mon héros, j'ai été surpris par une chose. J'ai fait cette réflexion au moment où, quelques mois avant d'écrire ce livre, c'est que j'avais été très jeune faire un de ces séjours linguistiques en Angleterre. Et j'étais donc au sein de la population anglaise, et j'étais surpris que les gens, lorsqu'ils se saluaient, parlaient du temps, le temps qu'il avait fait, le temps qu'il allait faire, s'il allait pleuvoir, etc., nice weather, etc., tout ça. Alors qu'en France, ce n'était absolument pas le début qui semblait obligatoire des conversations. Donc ça m'avait beaucoup frappé, ça. Et je me suis rendu compte, donc, à ce niveau, que maintenant, on fait exactement la même chose, on parle du temps. Il y a des émissions à la radio, vous qui êtes un homme de radio, vous le savez, et tous les auditeurs de la radio le savent, les prévisions météorologiques ont une place énorme dans les informations et sont systématiquement reprises heure après heure dans toutes les stations de radio, pratiquement, sauf les stations musicales. Et je me demande pourquoi on a ce besoin de savoir le temps qu'il va faire, d'autant plus que très souvent, les erreurs sont là et que ce qui a été prévu ne se réalise absolument pas. Et ce qui se réalise, c'est des choses qui ne sont jamais prévues, comme en politique d'ailleurs.
Ou en économie. Voilà. Ou en économie. Les crêpes boursiers, par exemple. Là, vous le dites, que les gourous de l'économie ont été incapables de prévoir la crise des subprimes, par exemple.
Oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que, et c'est là aussi où on trouve l'imposture, mais ces gourous qui n'ont rien su prévoir au niveau d'une crise majeure qui a été un désastre pour des millions et des millions de personnes dans le monde entier, ces gourous sont toujours là. Ce sont les mêmes. Comme en politique, ceux qui n'ont jamais prévu tel événement majeur en politique, on n'en tient pas compte. Ils sont toujours là, année après année. C'est ça la posture aussi.
Alors Emmanuel Macron a changé un peu la règle du jeu politique en France.
Qui l'a prévu?
Il y a des hommes politiques qui ont un peu disparu.
Oui, mais
du champ.
Qui a prévu que Macron serait le prochain président de la République française?
Personne ne le pensait, à part peut-être les milieux économiques.
Même pas. Bon, je ne parle pas du fait qu'après le premier tour, etc., etc. Je dis, bien sûr, les prévisionnistes doivent prévoir un peu à l'avance. Mais je veux dire, un an avant ou 9 mois avant la date des dernières élections présidentielles, personne ne pensait que Macron serait l'élu. Et tout est comme ça.
Alors on va faire non pas un flash météo, Robert Hennel, mais une nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre. On vous retrouve dans une poignée de minutes. Je rappelle que vous êtes notre invité pour votre deuxième roman, mais c'est pas deuxième roman, on est d'accord, mais c'est pas
tout
votre premier livre. Nous, les Ultras, disponibles aux éditions Les Trois Colonnes, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
We remembered Zion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes toujours avec Robert Hennel, qui est l'invité de votre émission littéraire pour son roman « Nous, les Ultras », disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Votre personnage, votre héros, Robert Hennel, qui se prénomme Robert, comme vous, j'insiste là-dessus, part d'ailleurs comme conseiller auprès de l'attaché culturel de l'ambassade de France à Beyrouth. Mmh. Et vous aussi, vous avez eu cette chance de découvrir le Liban encore dans la paix, mais vous avez vu les premières agitations des fédaïnes dans un Liban chrétien qui a basculé très vite dans la guerre civile.
Oui, c'est-à-dire que j'étais au Liban à une période qui a précédé le début de la guerre civile, mais qui était un climat de violence qui nous faisait vivre de façon très paradoxale, puisque le même jour, vous aviez des touristes du monde entier qui venaient découvrir le Liban, qui venaient assister au festival de Baalbek, et le soir, il y avait un couvre-feu parce qu'il y avait une trentaine de morts du fait de combats entre les fédéines et l'armée libanaise. Et c'était quand même une période absolument surréaliste et qui ne dérangeait personne.
Et vous, jeune homme, Robert Hennel, au Liban, vous avez côtoyé des personnages dont les activités étaient étranges. En tout cas, quand on lit celles, les activités des personnes qui entourent votre héros, on est un petit peu angoissé. On se dit, mais comment a-t-il réussi à rester serein, entouré de ces hommes qui travaillaient pour l'armée française, pour l'ambassade de France ou pour des services? C'est assez surprenant si vous avez réellement connu cela, Robert Hennel.
Ah, mais écoutez, c'était pas tellement surprenant, puisque c'est une époque, puisque c'est avant 75 que ça se passe, et c'est une époque où le renseignement, toutes les activités, entre guillemets, parallèles, etc., étaient le fait d'un engagement d'hommes. Et aujourd'hui, ces mêmes activités, c'est du numérique, c'est des ordinateurs, c'est les écoutes de la NSA, etc., etc. C'était un monde tout à fait différent. Et vous aviez donc des gens qui avaient une activité professionnelle tout à fait claire, visible, et qui en même temps avaient des fonctions beaucoup moins visibles, enfin, qu'ils souhaitaient beaucoup moins visibles, etc. Donc c'était quand même une époque qui est un peu l'équivalent de ce qu'on avait au cinéma dans les années 70, c'est-à-dire le monde des barbouzes, etc. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y avait cette ambiance. On fréquentait forcément des gens de tous acabits et des gens très intéressants, très drôles, très dramatiques aussi.
Vous avez quitté, vous, alors Robert Hennel, comme votre personnage, vous quittez le Liban fin 69?
Oui, je quitte le Liban. Moi, j'ai quitté, je suis revenu. Moi, j'ai quitté un peu plus tard, mais enfin, peu importe. Les choses n'ont fait qu'empirer entre 69 et 75. Oui.
Alors, on va quitter le Liban pour revenir en France, pour revenir dans Lyon et pour nous arrêter à Vézelay, puisque votre personnage va se laisser totalement séduire par celle qu'on appelle la colline éternelle, Vézelay. Et là, Robert Hennel, il y a des pages assez rudes sur Vézelay et les différentes populations qui y viennent. Alors il y a bien sûr les touristes, hein, vous dites, de grands autocars portant les inscriptions et les immatriculations les plus variées, les déposent donc sur le parking du champ de foire en bas de la cité pour les récupérer une heure plus tard et ils repartent. Pour ceux qui, comme moi, aiment flâner au pied de la basilique, les tenues, notamment estivales, au même titre que les échanges et commentaires de ces touristes, sont plus que souvent affligeants. Mais il sera beaucoup pardonné à ceux qui ne font que passer. Les habitants sont bien pires que ces visiteurs. Je n'allais pas tarder à découvrir leur turpitude. Le terme ne constitue en rien une exagération.
Oui.
Quelle sévérité sur Vézelay. Vous allez vous faire des ennemis, Robert Hennel?
Oh, je crois que c'est déjà fait.
Ah, donc.
C'est déjà fait, non. N'ayez aucune inquiétude.
Vous écrivez, alors là je continue, « Les religieux, hommes et femmes, vivent leur vie loin des habitants, n'était leur tenue, on ne les verrait même pas. Bien sûr, il n'y a plus d'émeutes, les abbés, à l'exemple d'Artaud, ne sont plus assassinés. Aujourd'hui, on a un pédophile notoire, un élu qui aurait pratiqué ce que la loi dénomme de l'abus de faiblesse afin de profiter d'affaires immobilières. Autre monde, autre temps. »
Oui. Eh bien, je crois que y a quand même une chose. Et y a, je ne sais pas si je me souviens plus si mon héros en parle. Et si c'est présent donc dans ces pages, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par Vézelay, des gens de tous les horizons et de toutes les régions, de toutes les nationalités, parce qu'ils ont l'impression, et moi j'étais un peu comme cela, qu'à Vézelay, compte tenu de l'histoire, compte tenu de la beauté du lieu, il ne peut se passer que des choses extraordinaires et que les gens qui vivent à Vézelay sont des gens qui sortent également de l'ordinaire, à l'image, j'allais dire, de leur environnement. Eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas.
D'ailleurs, bon, vous dressez toute les strates sociologiques que l'on peut trouver à Vézelay. Hein, vous parlez donc des habitants qui résident tout près de la basilique. Il y a les Parisiens qui viennent et quelques étrangers qui ont acheté au fil des années une résidence secondaire. Autre tribu, les aventuriers de passage, et puis vous écrivez, page 154, « Enfin, il ne faut pas oublier les sectes avérées et les autres, les grises dont on ne sait si elles font partie de la liste établie par la Miliwude ou non. C'est le champ des rumeurs. Telle maison et ses propriétaires auraient servi d'antenne puis de boîte aux lettres à l'ordre du temple solaire. On vous raconte qu'une association aux activités incernables bénéficiant de solides subventions ne peut qu'appartenir à cet univers, sinon comment aurait-elle obtenu autant d'aide ? C'est un petit monde qui présente un avantage appréciable dans le contexte général, sa grande discrétion, ce qui le rend d'autant plus suspect aux autres composantes de la population. »
Oui. Ça a l'air de vous choquer.
C'est pas que je suis choqué, je suis surpris de lire autre chose que des propos dithyrambiques sur Vézelay.
Mais je crois que les propos dithyrambiques sur Vézelay, c'est le rôle des touristes ou des gens de passage pour quelque temps. Ce qu'il y a, c'est quand on a vécu à Vézelay. Qui est très attachant. Malgré cela, c'est un petit monde qui a ses rites, ses rituels. Ils sont comme je les ai perçus moi-même, mais ils sont comme cela. C'est en quelque sorte, une chose qui est intangible. À Vézelay, ça a toujours été comme cela, même au Moyen-Âge, quand vous aviez les bourgeois et le petit peuple qui essayait de se révolter contre les abbés, etc. Ça n'a pas changé. C'est exactement le même processus, les mêmes représentations. Et bien sûr, il n'y a plus, comme c'est écrit, de révolte de la populace ou de la population, mais les divergences, les strates existent encore.
D'ailleurs, ce passage sur Vézelay où s'installe votre héros et où vous-même, oui, Robert Hennel, et votre épouse Anne-Marie êtes installés depuis de nombreuses années maintenant, je lis ce paragraphe. « Les itinéraires qui sont les nôtres ne mènent désormais nulle part. Avant, bien avant, nous allions quelque part avec certitude. Chaque destin était associé à un ailleurs, à une foi, à une vision qui était plus importante que nos vies, car c'était elle qui lui donnait un sens. Le plus désespérant et révoltant, c'est que plus personne, à part nous les ultras, ne le sait et ne ressent ce vide. »
Oui. Oui, c'est tout à fait mon ressenti, parce que à Vézelay, maintenant, on peut aussi se demander de façon légitime pourquoi certaines personnes sont à Vézelay, parce qu'elles ont une vision, une façon d'être qui est plutôt germano-pratine ou bobo. Et je pense qu'ils pourraient exercer leur talent s'ils en ont, enfin, leur petit talent, partout ailleurs plutôt qu'à Vézelay, sans que la cité ne s'en porte plus mal.
J'isole une phrase de votre roman et je vous la soumets à vous, Robert Hennel. Chaque jour, je me pose un peu plus la question de savoir pourquoi je suis ici et ce que je fais dans ce lieu. Alors, vous, Robert, pourquoi êtes-vous à Vézelay et que faites-vous dans ce lieu ?
Eh bien, moi, j'étais comme beaucoup de gens dont j'ai parlé, c'est-à-dire que je pensais que dans ce lieu, les choses, les hommes, les femmes seraient certainement différentes, parce que le lieu est quand même très différent de ce qu'on connaît habituellement dans les villes, dans les cités, dans les territoires. Et puis, ce n'est pas le cas. C'est même pire, certainement, que dans d'autres... Que dans d'autres villages, que dans d'autres cités. Voilà. Et donc, c'est la déception, en définitive, quand on a attendu, quand on a une impression qu'il allait se passer quelque chose, ou que tout était réuni pour nous faire connaître autre chose, et qu'il ne se passe rien, je veux dire, c'est difficile, c'est dur.
Je reviens sur un élément de l'enfance de votre héros. C'est l'épisode du verre de lait qui est distribué lors de la récréation du matin.
Oui.
Souvenir personnel authentique ?
Ça, c'est un souvenir personnel, absolument.
Vous pouvez l'expliquer, Robert Hennel ?
Vous voulez que je raconte cette histoire ?
Je le souhaiterais.
Ah bon ? Je vais vous raconter, c'est que pendant le... C'était sous la 4e République, donc, et le président du conseil de cette époque était Pierre Mendès-France, bien connu. Et Pierre Mendès-France, pour des raisons certainement légitimes, avait un jour décidé que... du lait serait distribué aux enfants des écoles à la récréation de 10 heures parce que nombreux étaient les enfants qui ne mangeaient pas de façon correcte et qui souffraient d'une forme ou d'une autre de sous-alimentation. Or, pour une raison personnelle, je ne supporte pas le lait. D'ailleurs, j'ai failli, enfant, très jeune enfant, en mourir. Et donc je hais le lait, je ne peux pas supporter l'eau. Maintenant ça va un peu mieux, mais à l'époque je ne pouvais même pas supporter l'odeur du lait chaud, ce qui me rendait malade, mais au sens premier du terme. Et donc chaque fois qu'il y avait cette distribution qui se passait dans une grande salle, où il y avait un bac énorme, quelque chose qui devait faire 70 cm, 80 cm de haut et de diamètre, et vous aviez toutes les effluves du lait, qui arrosait toute la salle, et vous aviez la louche qui remplissait systématiquement l'instituteur, qui remplissait systématiquement les verres, et tout le monde qui allait en rang boire ça. Moi, j'étais tellement malade de sentir cela que je me débrouillais toujours pour disparaître discrètement. Et je me réfugiais ou aux toilettes ou dans une salle de classe, et j'attendais que cette plaisanterie soit terminée.
Et alors, je lis un paragraphe très intéressant.
M'attendais à ce que vous lisiez.
Je lis le passage qui me plaît tant. « Cela me plaisait énormément de me défiler, de quitter les rangs sans me faire voir. J'éprouvais une sorte de fierté d'agir différemment des autres, de me soustraire à la discipline, de ne pas suivre le troupeau. »
Exactement.
Et vous dites d'ailleurs que cela a vraisemblablement conditionné vos orientations politiques et vos choix politiques futurs.
Oui, parce que j'avais beau avoir, je devais avoir 10, 11 ans à l'époque, mais on était dans une famille très polémique parce qu'il y avait toutes les opinions. Dans ma famille, on parlait beaucoup politique et... Comme je savais qu'à mon âge, j'avais un sentiment politique déjà assez développé, et comme je savais que Pierre Mendès-France était un représentant de la gauche, je me suis dit, la gauche, c'est pas pour moi.
En revanche, ce qui est amusant aussi dans le roman, « Nous les Ultras », votre livre, Robert Hennel, c'est les réflexions sur le prénom que l'on porte.
Oui.
Vous dites qu'il exerce une influence déterminante sur notre personnalité et donc sur le déroulement de notre vie. Si cette théorie s'avère exacte, les jeunes générations risquent de connaître des lendemains très inquiétants.
Je dois dire que moi j'étais sensibilisé à l'histoire des prénoms parce que, comme je vous l'ai dit, je suis d'une région qui a connu l'occupation allemande de 1870, le rattachement à l'Allemagne, pardon, je parle toujours d'occupation, c'est un non-sens, le rattachement à l'Allemagne de 1871 à 1918, mais de la même manière, cette ce département, le département, cette partie de la Lorraine, le département de la Moselle, a été rattaché en catimini, sans que personne n'en parle, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, a été rattaché à l'Allemagne de 40 à 44. Ce n'était pas une zone occupée, c'était l'Allemagne. Et des gens ont fait un mauvais calcul pendant cette période, et j'avais des amis qui avaient mon âge et qui étaient affublés de prénoms tels que Herbert, Manfred, etc., etc., et qui ont vécu un enfer à cause de leurs prénoms, qui, aux récréations, se faisaient traiter de salauds, de boches, de fleurs, enfin bon, je passe tout ça, etc., etc. Donc, les prénoms, ça m'a marqué à cause de ça, bien que là aussi, j'étais très jeune. Et ce qui me frappe actuellement, c'est que les prénoms, c'est tout et n'importe quoi depuis quelques années, puisqu'on peut donner n'importe quel prénom, sauf à insulter la République ou des choses comme ça. Et je pense que le niveau culturel actuel est tel qu'on s'imagine qu'en affublant les enfants des prénoms, des héros, des séries américaines ou autres, on va en faire des enfants intelligents, des enfants hors du commun, etc. Et on en fait aussi des personnages mythologiques. On n'hésite pas à appeler son fils Hercule, même si c'est un avorton, etc. Donc, moi, je pense qu'on fait le malheur de générations entières en ne mesurant pas ce qu'est un prénom qui implique et qui est une signature pour la vie entière.
Difficile, effectivement, de s'appeler Loana, Sue Hélène, Horatio, Fleuris, Amarante, Camomille, Pomme ou Myrtille.
Bien sûr. Je parle d'une réflexion qui m'a été faite et qui n'a rien à voir, enfin, qui a à voir avec le propos, mais qui n'est pas dans le roman. C'est que j'ai rencontré à Vézelay un homme que je connais, un vieillard que je connais. Et j'ai présenté mon petit-fils qui se prénomme Jules. C'est un peu à la mode, mais enfin bon. Il me dit, ah ben c'est bien Jules, au moins c'est un vrai prénom. Et ce vieil homme me dit ça, et j'ai bien compris qu'il avait tout à fait raison. Et il a insisté sur une chose, il m'a dit, j'ai été arrêté par des policiers l'autre jour, une policière et un policier, et la policière se tourne vers son collègue et lui dit, Martine, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, son prénom, c'était Martine. Et il m'a dit, Martine, le prénom anglais. Et il m'a dit, c'est quelque chose d'incroyable que ce type s'appelle Martine. C'est ridicule.
Il y a aussi alors, des réflexions très intéressantes sur l'importance des signes auxquels votre père était très attaché. Mais on n'aura pas le temps d'en parler. Il y a la réitération binaire aussi. C'est très intéressant. Oui. C'est-à-dire que vous allez une fois dans un endroit.
Oui. Et puis bizarrement, alors que rien ne laisse prévoir, quelques mois ou quelques années plus tard, je me retrouve exactement dans cet endroit pour faire tout à fait autre chose.
Il y a cet accident en BMW, très loin de Courson-les-Carrières, mais ça peut être anecdotique. Frôler la mort de près, c'est une expérience bouleversante. Et surtout en sortir miraculé.
Oui, c'est ça qui m'a frappé, c'est que c'était vraiment... J'ai un blanc, d'ailleurs, je ne me souviens plus de 2 ou 3 minutes, mais j'ai quand même agi de façon inconsciente, ce qui m'a sauvé la vie, puisque je suis passé à 10 cm d'un arbre et je me suis écroulé, enfin la voiture s'est écroulée 4 mètres plus bas dans un champ qui venait d'être labouré. Si le champ n'avait pas été labouré le jour même, je ne sais pas ce qui serait passé.
Alors le terme d'ultra a fait sa réapparition dans les stades de football.
Entre autres, oui, oui.
Et notamment, on a, avec nous les ultras, la preuve qu'être ultra n'est pas un simple trait de caractère. C'est entre autres ce qu'il faut retenir de votre dernier roman, Robert Hennel, qui est riche d'aventures, d'excellents portraits aussi que vous brossez, des hommes que rencontre votre personnage. Oui. Ça a un sens du portrait, de la caricature, qui est absolument admirable, Robert Hennel, je le dis très, très sincèrement. Et puis une réflexion et une volonté, une vraie volonté de ne pas être bien pensant, en tout cas de s'affirmer à l'encontre de ce à quoi tout le monde adhère un peu trop facilement.
Oui, parce que nous sommes dans... Nous sommes maintenant, depuis quelques années, dans un monde où on ne peut plus lire certaines choses, où il faut faire attention aux jugements que l'on peut porter, etc. Je veux dire, certaines personnes, certains auteurs, etc., sont stigmatisés parce qu'ils ont écrit telle chose, tel roman qui se passait il y a 50 ans, il y a 60 ans, dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais maintenant, on parle d'une chose qui est vitale, c'est d'être transparent, c'est de dire les choses comme on doit les dire, c'est d'être correct à chaque instant et tout. Et je trouve ça d'une tristesse et d'une banalité, d'une médiocrité hallucinante.
Je rappelle le titre de votre roman, Robert Hennel, « Nous les ultras », avec un point d'exclamation. Votre ouvrage est disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Et puis je vous livre cette réflexion de George Orwell, qui risque de vous séduire. « Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire ».
Exact.
Ça vous plaît ?
Ça me plaît.
Alors nous terminerons ainsi. Merci, Robert Hennel, d'avoir été notre invité.
C'est moi qui vous remercie de vos questions et de la pertinence de votre démarche.
La semaine prochaine, alors je rappelle, cette émission se retrouve en ligne sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Et la semaine prochaine, à 11h, devant ce même micro, je recevrai... Alors c'est un Avalonnais, Roland Hennès. Il a écrit « Chronique de la vie municipale avalonnaise 1971-2014 ». Et puis je voudrais, alors Robert, vous qui aimez les écrivains, la littérature et la culture, et je le dis aussi à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, pointer du doigt une excellente manifestation qui va se tenir les 28 et 29 septembre prochains, c'est la 12e édition de Livre en Vigne qui se tient au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. C'est la première fête du livre au cœur du vignoble. Alors cette année, Livre en Vigne sera présidé par Camille Pascal, qui a signé un roman paru l'an dernier chez Plon, L'été des quatre rois, et qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Il faut signaler aussi que l'invité d'honneur sera Patrick Poivre d'Arvor. En tout cas, une centaine d'écrivains qui participent durant les deux jours, 28 et 29 septembre prochains, à la 12e édition de Livre en Vigne. Programme des tables rondes et liste des auteurs invités sur le www.livresenvigne.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci encore Robert Hennel. Au revoir.
Merci.
Et à la semaine prochaine, 11h, pour un nouveau numéro de Wagon Livre sur Radio.